Vendredi 27 décembre, bonjour à tous. Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin. La une de l'actualité ce matin, le conflit social sur la réforme des retraites qui est entré dans sa quatrième semaine, des transports toujours très perturbés, aucune porte de sortie visible et une nouvelle journée d'action demain samedi. Les autres titres ?
Dans les flops de l'année 2019, l'échec cuisant de l'opposant Juan Guaido au Venezuela, il n'a pas réussi à renverser le président Nicolas Maduro. Le blocage de Wikipédia en Turquie depuis 2 ans est une violation de la liberté d'expression. La Cour constitutionnelle turque a tranché. Et puis quand l'aviation cherche à compenser ses émissions de CO2, plantation d'arbres, soutien au développement des énergies renouvelables, solutions concrètes ou blanchiment écologique, le principe de compensation carbone ne met pas tout le monde d'accord.
Invité de France Inter ce matin à 7h50, retour sur 2019, année record pour le cinéma en France, avec le producteur, distributeur et immense cinéphile Jean Labadie. À 8h20, la campagne présidentielle américaine décryptée par l'ancien ambassadeur de France à Washington, Gérard Haro, sera l'invité du grand entretien de la matinale. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 et sur l'application mobile de France Inter.
France Inter.
La mobilisation contre la réforme des retraites. Les grévistes ne veulent pas laisser s'installer de trêve. Les appels à manifester se multiplient. 300 personnes hier à Paris à l'appel d'une coordination de grévistes. Une journée, nouvelle journée d'action prévue demain samedi, alors que le taux de grévistes est orienté à la baisse. Un enjeu crucial pour les opposants à la réforme, Grégoire Le Callot.
Ils sont là, 23e jour de grève, plus qu'en 1995, mais ils sont moins nombreux. Le 5 décembre, 55% des cheminots ont cessé le travail. Au dernier pointage, hier, ils étaient 9,6%. Alors évidemment, dans les manifestations...
On aurait aimé par ailleurs, hein, mais c'est clair qu'il y a toujours une érosion du nombre de grévistes. Mais enfin, elle tient malgré tout cette grève. Hein.
Jean-René Delépine, secrétaire fédéral Sudrail.
La baisse des taux de grévistes, elle était aussi à relativiser. Il y a des reprises techniques de gens qui reprennent un jour pour pouvoir prendre les congés qui ont été posés, etc. Cela, on les retrouvera après les congés, certainement.
Chez les conducteurs, catégorie symbole, le taux de grévistes baisse aussi. 42% contre 58% la semaine dernière. Casquette SNCF sur la tête, Jean-François Denoyel, formateur en souris.
C'est marrant parce que même à Noël, ils disaient que le taux baissait et puis ils n'avaient pas assuré les trains. Donc non, la mobilisation est toujours là. Les gens, ils n'ont pas fait grève 20 jours pour s'arrêter là.
Et tous ensemble !
La RATP, elle, a pu annoncer une réouverture de ligne de plus que prévu hier. Une tromperie, dénonce Mathieu Nogretz, conducteur sur la ligne 5.
Celles qui sont ouvertes, c'est de la communication, comme Diachois, c'est de la com. Ils ouvrent avec 2 ou 3 trains, ils ouvrent 3-4 stations. C'est juste pour dire aux gens, bah voyez, on ouvre des lignes de métro et ça baisse, mais en fait, c'est faux.
Jusqu'ici, le taux de grévistes est remonté lors de chaque journée d'action. La prochaine est pour demain.
Notez que le week-end sera mieux fourni en train que le précédent. Pour ce chassé-croisé des vacances de Noël, la SNCF compte faire rouler 60% des TGV demain et dimanche. Et puis on l'apprend, 2 dépôts de bus d'Île-de-France sont bloqués ce matin par des manifestants. C'était l'une des conséquences du mouvement contre la réforme de retraite, des coupures sauvages d'électricité revendiquées par la CGT. Une clinique d'Agen a porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Il n'y a pas eu de conséquences physiques directes pour les patients, a expliqué le parquet. L'enquête en cours doit déterminer si les faits de mise en danger de la vie d'autrui sont caractérisés, sachant que le groupe électrogène a rapidement pris le relais dans la clinique. C'est l'un des mots de l'année 2019, le Flyg Skam, mot suédois pour dire la honte de prendre l'avion à cause de son impact sur le réchauffement climatique. Ce phénomène, notamment porté par l'activiste Greta Thunberg, prend de l'importance et pourrait même aller jusqu'à faire de l'ombre au trafic aérien mondial. Alors les compagnies aériennes inquiètes de cette nouvelle tendance, promettent de verdir leurs voyages grâce à la compensation carbone. En 2020, EasyJet, mais aussi Air France, s'engagent à compenser les émissions de CO2 de certains vols. Les écolos peuvent-ils désormais prendre l'avion la conscience tranquille ? Ce n'est pas si simple que cela, Sandy Dauphin.
Air France s'engage à compenser les émissions de CO2 des quelques 57 000 voyageurs sur ses 450 vols intérieurs quotidiens. Elle va financer par exemple la plantation de millions d'arbres pour absorber le CO2 ou des projets d'énergie renouvelable qui évitent les émissions de gaz à effet de serre. Le dispositif est confié à une société, EcoAct, l'un de ses responsables, Arnaud Doré.
Les programmes de compensation carbone se tiendront en Amérique latine, au Kenya et en Asie. Tous les projets de compensation carbone sont audités par des tiers externes à Air France, mais externes aussi aux porteurs de projets pour garantir l'intégrité environnementale du projet.
Mais le principe est loin de faire l'unanimité, même avec des labels. Pour l'association Les Amis de la Terre, c'est une façon de se dédouaner. L'une de ses porte-paroles, Anne-Laure Sablé.
Il faut de nombreux organismes pour venir valider ce qui serait finalement une plantation d'arbres vertueuse qui pourrait venir compenser des émissions de l'aviation.
Non, c'est absolument pas crédible de penser qu'on pourra compenser nos émissions de CO2. Et ça, le GIEC, la science est très claire. Il ne s'agit pas aujourd'hui de compenser, il s'agit de réduire de façon drastique nos émissions.
Aujourd'hui, un Orly-Nice en avion, c'est 86 kg de CO2 équivalent par passager contre 1,8 en TGV. Air France mise beaucoup sur l'éco-pilotage et sur une nouvelle flotte d'avions moins gourmands en carburant pour réduire ses émissions carbone.
Sandy Dauphin.
7h06, la suite du journal de Laurence Thomas et fin de votre série sur les grands ratages de l'année 2019, direction le Venezuela.
Nous sommes en janvier 2019. Un jeune député de 36 ans, inconnu à l'étranger, Juan Guaido, se proclame président par intérim.
Je m'engage à assumer les responsabilités du pouvoir exécutif en tant que président du Venezuela.
Juan Guaido ne réussira pas à convaincre l'armée de lâcher le chef de l'État, Nicolas Maduro. La situation au Venezuela n'a pas évolué, une économie à l'agonie. Près de 5 millions de personnes ont quitté le pays et Juan Guaido ne trouve aujourd'hui plus aucun écho à ses promesses de changement. Olivier Poujade.
Au milieu de la foule, ce matin du 23 janvier, Juan Guaido brandit la Constitution et conteste la légitimité de Nicolas Maduro. Un coup spectaculaire immédiatement appuyé par un tweet de Donald Trump. Toute la puissance diplomatique des États-Unis se met à son service, la dynamique est de son côté, il multiplie les meetings dans les universités, parvient à rallier même quelques hauts gradés de l'armée. L'appareil sécuritaire vénézuélien se fissure mais reste fidèle à Maduro. En réalité, Guaido va se précipiter lui-même dans l'impasse en refusant toute forme de négociation avec le pouvoir en place. Il n'offre qu'une seule issue à la crise, une intervention militaire soutenue par les États-Unis. Si Trump l'évoque même à demi-mot, il ne prendra jamais le risque de s'enliser dans le Vietnam latino que lui promettent les chavistes. Guaido va pourtant risquer la confrontation physique en tentant de forcer l'entrée d'une aide humanitaire par la Colombie. C'était en février dernier. Depuis, le matériel humanitaire pourrit toujours côté colombien. Dans les rues, Juan Guaido ne s'adresse plus qu'à une poignée d'irréductibles. L'échec d'une stratégie sans concession, fomentée par Washington et embrassée aveuglément par une diplomatie européenne qui aurait sans doute pu offrir une troisième voie aux Vénézuéliens.
Olivier Poujade. En Turquie, la Cour constitutionnelle turque donc a tranché. La plus haute instance juridique du pays a jugé que le blocage par le gouvernement de l'encyclopédie en ligne Wikipédia constituait une violation de la liberté d'expression. Wikipédia est bloquée en Turquie depuis avril 2017 en raison de deux articles qui établissent un lien entre Ankara et des organisations extrémistes. Wikipédia, avec ses contributeurs bénévoles et ses 500 millions de visiteurs par mois, déplaît parfois au pouvoir fort. Christine Siméon.
C'est en Chine que la diffusion des sites internet et de Wikipédia en particulier est la plus compliquée. La version en chinois de l'encyclopédie a été censurée à partir de 2015 et toutes les autres versions dans les autres langues le sont également depuis mai dernier. Le gouvernement chinois estime devoir sauvegarder sa souveraineté dans le cyberespace, raison pour laquelle il opère régulièrement un tri selon les sites et les contenus. Ailleurs dans le monde, il arrive que Wikipédia soit interdite d'accès ponctuellement. Cette année, la page de Juan Guaido, nouveau président de l'Assemblée nationale au Venezuela, a été l'objet d'une bataille d'influence féroce entre les partisans de Maduro et ceux de Guaido. Wikipédia a fini par être bloquée, le temps que les esprits se calment. Les cas de censure contre Wikipédia sont en fait assez rares, ce qui n'empêche pas les critiques. En Russie, Vladimir Poutine ne la trouve pas assez fiable. Il a donc fait voter un budget pour une encyclopédie en ligne alternative. En fait, il s'agit de numériser la grande encyclopédie russe qui existe déjà, mais uniquement sous forme papier. Et lui aussi défend l'idée d'un Internet souverain.
Christine Siméon.
C'est un peu le Facebook des voisins, coup de projecteur sur l'application Nextdoor.
L'appli mobile américaine est désormais en France, propose aux habitants d'un quartier d'échanger des conseils ou des services. Faire arroser ses plantes l'été, chercher un babysitter de confiance, voire demander des conseils pour trouver un dentiste pas loin de chez soi. Ce récent réseau social hyper local résout ce problème. Il met en contact les voisins d'un même quartier pour pour se rencontrer et échanger. Inventé outre-Atlantique, Nextdoor existe désormais dans 11 pays. Illustration à Paris, où cette application rencontre un grand succès. C'est le reportage de Claire Flochel.
Quand il y a par exemple quelqu'un qui met une annonce, j'ai besoin d'un médecin, j'ai besoin d'aller chercher des médicaments pour une personne âgée. Moi je suis dans le quartier depuis 26 ans, je connais tout ce qui se passe autour.
Loulou, 53 ans, gardienne d'immeuble dans le quartier des Épinettes, dans le 17e arrondissement, très active sur Nextdoor avec ses voisins.
Et depuis qu'il y a Nextdoor, les gens ils se découvrent plus facilement. Ils se retrouvent au café, ah bah tiens c'est toi celui qui est sur l'application, on se parle, machin. Donc ils s'organisent même des petits apéros et c'est génial.
Nextdoor peut aussi servir à diffuser différentes informations sur son quartier. Et c'est ce que fait Quentin, 24 ans, investi dans plusieurs associations.
C'est comme si je postais un message sur mon Facebook. Et ben là, je le poste sur Nextdoor, mais au lieu de toucher que mes amis, je vais aussi toucher un public qui habite autour de moi.
À Paris, l'application découpe la ville en 370 quartiers. Et pour y avoir accès, il suffit de s'inscrire. On rentre son nom, son prénom et le nom de sa rue. Karim Bassiri, le responsable France de Nextdoor.
Une de nos forces, c'est le fait qu'on demande justement à chaque personne de vérifier son adresse. Donc c'est une véritable personne, ça permet de créer en fait des relations de qualité et surtout dans un climat de confiance. Ça nous rapproche et c'est plus facile ensuite de demander de l'aide ou un service lorsque l'opportunité se présente.
En France, Nextdoor est présent dans 9000 quartiers et 2800 villes, à Paris donc et dans des grandes villes comme Lille, Lyon ou Marseille, mais aussi à Nice, Rennes ou encore Le Havre.
Claire Fochel.
Prendre le métro à Séoul, Laurence, peut réserver quelques surprises.
Dans une station de la capitale sud-coréenne, a été construite une ferme futuriste en partie automatisée dans laquelle poussent hors sol des laitues et autres produits frais. Ce projet est soutenu par la municipalité. Elle veut encourager les projets green et prête gratuitement à une entreprise de culture hydroponique, hors terre donc, mais avec de l'eau, les vastes espaces inutilisés de ces stations de métro. Le correspondant de RFI de Radio France à Séoul, Frédéric Ojardias, s'est rendu sur place.
Station de métro Sangdo, juste à côté des tourniquets, une ferme à l'ambiance de station spatiale, lumière rose, bruit de ventilation, blouse blanche obligatoire. Les salades poussent sur des plateaux empilés jusqu'au plafond. Pour entrer, on passe par une douche à air. Kim Song-eun est le gérant du projet.
La douche à air et les blouses, c'est pour empêcher tout type d'insectes ou de virus d'entrer. Nous pouvons ainsi cultiver nos légumes sans avoir recours à des pesticides ou à des organismes génétiquement modifiés. Comme les conditions sont bonnes, les plantes poussent mieux. En extérieur, la récolte a lieu après 60 jours. Mais ici, entre 37 et 40 jours suffisent.
Les laitues sont tellement propres et vertes qu'on dirait du plastique. Elles sont vendues dans le métro et au restaurant du voisinage, Song Kesun, une cliente.
Ces salades sont croquantes et délicieuses. Je les achète ici parce que mon fils ne mange pas de légumes. Mais ceux-là, il les mange. Même si elles sont plus chères, je préfère ces salades parce que je pense qu'elles sont bonnes pour la santé.
Mais ces salades, même bio, ont une lourde empreinte carbone. Leur culture nécessite beaucoup d'électricité, dont une grande partie en Corée provient de centrales au charbon. Séoul, Frédéric Ojardias, RFI pour France Inter.
Merci Laurence Thomas, 7h13.